18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, vous le savez, comme chaque soir, c'est Les Informés de 18h à 19h30. Quel plaisir de vous retrouver, parce que nous sommes ensemble dans Les Informés pour, vous le savez, commenter, analyser, mais aussi décrypter l'actualité. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, vous savez quoi? C'est tout d'abord d'ouvrir l'antenne, dès maintenant d'ailleurs, au 01 53 48 3000, parce que vous m'avez demandé de vous donner un peu plus d'espace. Donc, évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux à vouloir réagir à l'actualité. Et tant mieux, c'est une très bonne chose. Merci à vous tous. J'ai deux sujets à vous proposer. D'abord, hier, vous vouliez que je remette sur la table aujourd'hui le sujet sur la question de l'islam. Est-ce qu'on vit bien notre religion? Est-ce que nous vivons correctement notre religion sans être stigmatisés? Est-ce que, comme beaucoup d'auditeurs hier qui disaient finalement, il faut vivre notre religion de façon d'ordre privé, et le reste, après, on doit se comporter, évidemment, normalement. C'est aussi ça. Bon, alors, je vous attends au 01 53 48 3000. Autre sujet que je pose sur la table, vous savez, c'est celui du Qatar. De plus en plus, le foot, la Coupe du Monde, on appelle un boycott de la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui fait débat. Vous en pensez quoi? Venez livrer votre message parce que ça démarre le 20 novembre prochain. Cette compétition, ce mondial qui va se jouer dans des stades climatisés, dans un pays où effectivement on parle des droits humains. Bref, il y a eu une interview de l'émir du Qatar récemment dans le magazine Le Point où il fait état de plusieurs thèmes, plusieurs choses, où il dit des choses sans tabou. Bref, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Troisième sujet que je vous propose, vous savez, c'est un truc, moi, qui me choque terriblement et qui me fait mal au cœur et que je considère, évidemment, comme préoccupant. Une personne meurt de faim toutes les 15 secondes. Vous vous rendez compte? Ça fait plus de 850 millions de personnes dans le monde qui continuent de souffrir de la faim. Alors nous, quand on va au restaurant, avec nos enfants, etc., souvent, régulièrement, nos enfants ne finissent pas les plats, ou on leur demande allez-y, vous savez, il faut pas faire de gâchis, il faut éviter évidemment d'avoir les yeux plus gros que le ventre, vous savez, il y a plein de tous ces sujets-là qui nous animent au quotidien. Moi, quand je vois qu'il y a une personne qui meurt toutes les 4 secondes, ça me déchire. Je me dis, comment faire en sorte, évidemment, un, d'éviter le gâchis, deux, d'essayer de faire en sorte, évidemment, d'avoir une consommation qui soit juste, pas simple, hein, parce que, y compris avec les enfants. Il faut trouver un dosage, il faut trouver un équilibre, effectivement, parce que, bon, c'est un sujet aujourd'hui, avec notamment le réchauffement climatique, avec l'écologie, avec tout ça, avec le gâchis alimentaire, c'est des sujets qui préoccupent. Parce que quand on parle de 850 millions de personnes qui meurent dans le monde, ça mérite une clochette, même je dirais une double clochette. Vous vous rendez compte, ça? Ça, c'est terrible. 01 53 48 3000. Le standard est ouvert tout de suite. Je vous attends. C'est les trois sujets que je vous propose. Parlons-en partout en France, sans tabou et toujours avec beaucoup d'ouverture. Évidemment, je vous attends. Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et plus que jamais, en toute liberté d'expression. C'est parti.
Beurre FM, 18h, 19h30. Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Le standard est ouvert. Là, maintenant. Alors, je vous attends. Je vous attends, je ne bouge pas. Quand je dis je ne bouge pas, c'est-à-dire que je vous propose d'abord ce numéro, 01 53 48 3000. Là, tout de suite maintenant, au standard, trois sujets. Léon parlait de l'islam hier, comment vous le vivez en France? Est-ce que vous considérez que c'est difficile de vivre sa religion ici en France? Beaucoup d'entre vous hier faisaient la comparaison avec l'Espagne, la Grèce, d'autres pays. Eh bien, moi, je vous pose la question, est-ce que vous vivez, vous, Français de confession musulmane, est-ce que vous vivez bien votre religion? Et comment? Y compris, évidemment, au sein de votre milieu du travail. C'est-à-dire, il y a ça aussi, et cette question-là qui se pose aussi. Comment vous le vivez? Bref, 01 53 48 3000, venez en parler tout de suite, là, maintenant, le standard. Je vous attends là, maintenant. Une personne meurt de faim toutes les 4 secondes. Là, est-ce que c'est quelque chose sur lequel, évidemment, vous êtes sensibilisé? Parce qu'on parle de malnutrition. Et quand on parle de malnutrition dans le monde, vous savez, ça cause la faim est la première cause de mortalité dans le monde. Tous les ONG le rappellent. Toutes les ONG disent que, effectivement, on souffre régulièrement, les enfants souffrent régulièrement de malnutrition. et que c'est un véritable fléau. Et comment le vaincre ? Ben oui, il y a beaucoup, évidemment, beaucoup de conséquences liées à des effets naturels aussi, hein, parce qu'on parle de plus en plus d'inondations, de sécheresses, de catastrophes naturelles. Et ça, c'est un véritable fléau. 01 53 48 3000. Et enfin, le troisième sujet, on parle de plus en plus de boycott. La Coupe du Monde au Qatar qui fait débat avec notamment tous ces stades climatisés et puis les droits humains qui s'emparent du sujet et de la Coupe du Monde. 01 53 48 3000, mes chers auditeurs. Allez, pas mal d'appels justement. J'aime beaucoup. Et partout en France. Mohamed qui nous appelle de Paris. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour.
Bien, parlez bien devant votre combiné Mohamed, parce que sinon, oui, vous savez, ça risque d'être compliqué à l'antenne.
D'accord, bien noté.
On va baisser le fond générique.
D'accord.
Mohamed, on vous écoute. Mohamed Ali, pardon.
Oui. Mohamed Ali, oui.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mohamed Ali ?
Moi, je suis cadre dans l'industrie.
Vous êtes comment ?
Cadre dans l'industrie.
Cadre dans l'industrie. Allez, mon cher Mohamed, on vous écoute.
Bah, moi, je voulais juste parler du premier sujet qui était comment on vit l'islam en France. Voilà, donc moi, en tant que pratiquant, je le vis, j'arrive à le vivre, c'est vrai. Par contre, il y a... Pour moi, c'est beaucoup plus facile pour moi que pour ma femme.
Oui.
Ma femme, qui elle-même aussi est cadre, elle a du mal à... Par exemple, le poids, elle ne le porte pas. Et quand je lui en parle, bah, elle se dit que voilà, elle a du regard qu'elle peut avoir d'autres personnes. Et pour l'instant, elle a lutté.
Pour l'instant, je vous entends très très mal, mon cher Mohamed. Hein.
Pardon,
c'est pas possible. Il faut faire quelque chose avec le réseau de votre portable ou de la manière, parce que c'est pas audible du tout. Et je peux pas me permettre, parce que sinon les auditeurs, ils ont beaucoup de mal à suivre. Essayez de régler cette histoire-là et vous nous rappelez au 0153 48 3000. Ramdan, allez, vous nous appelez du 95, Ramdan. Bonjour, Ramdan.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ramdan? Et baissez votre poste de radio.
Il est baissé, c'est parce que je suis en haut-parleur.
Ouais, il faut éviter si vous voulez. Moi, j'aime beaucoup quand vous parlez avec votre combiné, avec le portable collé à la bouche, parce que le son est plus audible à l'antenne. Et baissez votre poste radio, s'il vous plaît.
Allô, c'est mieux maintenant ?
Ah, bah oui, il n'y a rien à voir, vous voyez, il n'y a absolument rien à voir. Je vous écoute, mon cher Ramdan. 0153 48 3000, j'attends tous les auditeurs partout en France pour venir participer, évidemment, et livrer votre point de vue.
Ramdan. Je sais pas sur quel sujet vous êtes parti, sur quelle proposition.
C'est vous qui choisissez.
Alors, sur la première, parce que ça me brûle le cœur d'en parler. En parler, est-ce qu'on vit notre islam bien en France ?
Oui.
Alors, au niveau personnel et humain, j'estime qu'on le vit super bien. Alhamdoulilah, personne ne nous empêche de faire salat, qiyam al-layl, l'aumône, autant de ramadan qu'on peut. Ça, c'est par rapport à l'intra. Oui. L'intra, c'est-à-dire le musulman entre lui et lui-même.
Oui. Vous considérez que ça relève d'ordre privé et puis voilà, on n'a pas à l'étaler.
Alors, c'est pas ça. On peut l'étaler. D'accord. Comme... avant de l'étaler, il y a déjà un gros travail à faire sur soi-même, nous, et envers nous-mêmes, les musulmans, je vais dire. Alors, ce qui gêne le plus ici, dans cette société, on va dire, c'est la tenue vestimentaire. Qui est plutôt, on va dire, sunna. Vous savez, pour les hommes, le qamis et la barbe, et le voile pour les femmes.
Oui.
Voilà, c'est ce qui pose le plus problème dans cette société.
Oui.
Alors, et par rapport à ça, moi, je vois certaines villes, il n'y a absolument aucun problème à cette tenue vestimentaire. Donc oui, il y a certaines régions qui sont un peu plus compliquées que d'autres. Mais par exemple, en Île-de-France, j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre être dérangé par une femme voilée ou on va dire quelqu'un qui porte l'ahya sunna ou le kamis. On est bien d'accord.
Oui,
vous m'arrêtez
oui.
Je vous écoute,
ne vous inquiétez pas, je vous écoute, je suis très attentif.
Après, par rapport à travailler au travail avec cette allure, on va dire, le hijab ou le qamis. Écoutez, y a un, j'ai envie de dire à notre communauté déjà, parce que va falloir qu'on soit un petit peu réglo envers nous-mêmes.
Oui.
Y a énormément de métiers qui n'empêchent absolument pas de travailler avec cette allure-là. La médecine, le droit, il y en a plein, Là, ça ne vient pas à l'esprit, mais il y en a absolument. Nous, notre communauté se contente du peu. Ils veulent travailler, vous savez, dans les trucs les plus accessibles, en étant habillés comme ils veulent. Moi, je les incite à fournir beaucoup plus d'efforts, à s'orienter vers des métiers où ils seront décisifs et personne ne pourra leur imposer quoi que ce soit.
Ça veut dire quoi, des métiers orientés en fonction, évidemment, des métiers ? J'ai pas bien saisi.
Alors, vous avez pas bien saisi ? Alors, si une personne est médecin ou avocat, ou juriste, ce genre de choses, personne ne va lui imposer.
Personne quoi ? Ah, on l'a perdu, Ramdan. Et problème de réseau, hein. Bon, c'est en même temps, c'est le direct, c'est normal. 01-53-48-3000, 01-53-48-3000, je vous attends partout en France. Venez justement nous livrer votre point de vue, nous livrer votre sentiment sur les trois sujets que j'ai proposés, notamment sur la malnutrition, le gâchis alimentaire. Beaucoup de gens, quand je dis beaucoup, c'est 850 quand même millions. On parle de la famine, on parle aussi, vous savez quoi, et ça c'est terrible. Moi ça me déchire, évidemment, toujours de parler de ça, parce que c'est quand même une... Personne meurt de faim toutes les 15 secondes. Et j'ai l'impression que personne a cette prise de conscience. Personne, si vous voulez, a saisi l'enjeu de cette dimension. Et ça, c'est quand même préoccupant. 01 53 48 3000. Et le foot, la Coupe du Monde, le Qatar. On parle de boycott. Ça aussi, c'est un sujet. Amal de Montpellier. Bonjour, Amal. Amal. Bonjour.
Vous m'entendez ?
Très bien, Amel. Bonjour, bienvenue à vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Amel ?
Je suis ingénieure commerciale.
Ingénieure commerciale, du beau monde. Ah, c'est beau. On vous écoute, ma chère Amel.
Moi, je voulais juste m'exprimer sur le premier sujet, du coup.
Mais dites-moi, je vous écoute. Bienvenue, welcome.
Du coup, voilà. Merci beaucoup. En ce qui concerne le premier sujet sur comment on vit son islam en France, du coup, je voulais aussi rebondir sur les propos de Ramdan juste avant. Que c'est compliqué, en fait. Quand il parle de l'allure, moi, par exemple, je vais prendre mon exemple, mais je porte le voile, ça fait très peu de temps, ça fait même moins de 2 mois. Et je vous avoue que les regards changent et que le comportement envers nous change, peu importe la situation et le poste qu'on occupe.
Oui.
Je trouve que c'est un peu compliqué à l'heure actuelle.
Vous dites que c'est compliqué quand même.
Voilà, c'est compliqué, il faut dire ce qui est. Certes, on peut avoir des postes à responsabilité. Bon, moi, pour le coup, ça a été le cas parce que je pense que ce qui a compté, c'est que quand j'ai postulé pour ce poste-là, je ne l'avais pas forcément, je ne l'avais pas encore mis.
Oui.
À l'heure actuelle, au vu des comportements vis-à-vis de moi, je trouve qu'il y a une modification.
Si c'est quoi ces comportements, Amal ? Comment vous le vivez ? C'est quoi ces comportements ?
Bon, déjà, j'ai déjà posé la question pour le voile au travail qui a été refusé. Donc moi, pour mon cas, je suis dans l'obligation de l'enlever avant de rentrer en entreprise et de le remettre en sortant d'entreprise. Sinon, c'est pas accepté par la structure.
Oui. Donc,
je me suis pliée à faire ça, même si je vous avoue que c'est un gros frein pour moi. Et tout simplement, moi, par exemple, quand j'ai intégré l'entreprise, je l'avais pas. Et puis maintenant, quand des personnes m'ont vu, je vous dis une bêtise, mais sur le parking, le mettre ou sortir avec ou autre, je vois qu'ils sont pas aussi taquins qu'avant, pas aussi sympas, qu'ils tournent parfois le dos, etc. Donc on voit clairement une fracture à ce niveau-là et une modification, en fait.
Ah, c'est terrible ce que vous dites, effectivement. C'est terrible. Qu'est-ce que vous comptez faire ?
C'est évident, clairement. Ben, qu'est-ce que je compte faire ? Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup mon poste. Peut-être, pourquoi pas, dans un avenir plus ou moins long, m'orienter vers un poste qui serait un petit peu plus ouvert, ou pourquoi pas ouvrir quelque chose à mon compte. C'est des projets que j'ai. Je n'ai pas encore l'expérience adéquate, donc je me contente de déjà récolter l'expérience. Mais voilà, c'est vrai que c'est un pays où c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'exercer son islam. Après, il n'y a pas forcément que le vestimentaire. Je vous dis une bêtise, mais j'ai eu l'occasion d'être dans d'autres entreprises qui, pour s'intégrer, ne prennent pas uniquement les compétences, Mais par exemple, après le boulot, on doit aller au bar si on veut s'intégrer à l'équipe et boire de l'alcool. Et puis si on ne boit pas, on est un peu mis à l'écart, etc. C'est plein de petites choses comme ça qui font que vivre sa religion dans le milieu professionnel sainement en France, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, c'est ma vision des choses.
Bon. Ouais, Amal. Amal. Merci de votre témoignage, Amal.
Avec grand plaisir.
Si jamais vous changez de métier, vous nous faites signe, hein. Vous le dites, hein.
Je précise.
Merci Amal, 050.
On changeait de pays.
On changeait de pays, oui, effectivement. Vous avez envie de vous barrer, c'est ça?
Ah, franchement, plus ça avance et plus c'est un projet qui grandit en moi.
Qui grandit en vous. Faites ce qu'il vous plaît. Voilà.
Exactement. Ben, merci en tout cas.
Merci Amal. Si Amal vous fait réagir, 0153 48 3000, je vous attends évidemment. Venez en parler. C'est des choses qui nous concernent au quotidien. Voilà, effectivement. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, tout à l'heure, vous savez, on va retrouver à partir du 18h30 le face-à-face, le fameux face-à-face avec aujourd'hui Jean-Pierre Colombias, un ancien commandant de la police, mais également aussi le président de l'association franco-tunisienne, Rayed Chaibi. Pour l'heure, eh bien, c'est parti, l'interview du jour.
Les informés. L'interview.
Et l'interview tout à l'heure, comme vous continuez à nous appeler au 0153 48 3000 dans les informés et en direct, pour parler des sujets qui vous préoccupent, j'aurai tout à l'heure Laura Neyman qui nous appelle, mais pour l'heure nous allons parler, eh bien j'ai deux invités en direct pour parler de la fameuse rencontre de la diplomatie culinaire. C'est la deuxième édition, pour en parler Rachid Saïdi, les cofondateurs, mais également Naïma Sifer. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonsoir, cher Adil.
Bonjour, Adil.
Merci d'être avec nous, Naïma Sifer. Merci à Rachid Saïdi. Vous êtes les cofondateurs. C'est la deuxième édition cette année. Ce qui veut dire qu'en gros, eh bien, vous tirez un très bon bilan de la première édition. Rappelez-nous, les rencontres de la diplomatie culinaire, c'est quoi?
Alors, les rencontres de la diplomatie culinaire, c'est une grande rencontre avec deux pays, deux rives, pour mettre en valeur justement les produits du terroir marocain et français. La gastronomie, la diplomatie, à tout un tas de choses autour de deux jours. Donc cette année, cette rencontre se fera à l'UNESCO avec le soutien de la délégation UNESCO Maroc.
Rachid Saïdi, justement, est-ce que vous pouvez nous livrer les éléments, les détails de cette seconde édition qui vous attend cette année après le succès de la première?
Donc la seconde édition des rencontres de la diplomatie culinaire, ce sera deux jours d'exposition des exposants de produits terroirs français et marocains dans le hall Ségur de l'UNESCO. Les rencontres de la diplomatie ayant pour objectif de valoriser les liens de fraternité entre le Maroc et la France. Cette édition-là sera encore plus riche qu'avant, avec des chefs étoilés de renommée internationale, en combinant avec David Disso, qui est gagnant de Bocuse d'Or de 2001, avec Mariam Charchaoui, qui est chef exécutif d'un gros palace marocain. Et la soirée de gala sera toujours à l'école Médéric, qu'on connaît tous maintenant, qui a les mêmes principes, les mêmes valeurs que nous. La soirée de gala sera le 23, pour vous dire déjà, les tables sont réservées, donc il n'y a plus de tables. Et par contre, il y a encore des places, il n'y a rien à être confirmé pour des journées d'exposition qui seront le jeudi et le vendredi prochain de 10h à 16h.
Je vois aussi que vous avez un soutien de taille qui est celui de Gérard Salé.
Oui, alors Gérard Salé, c'est chef étoilé. Il a été chef au Plaza Athénée, au Phuket. On ne revoit plus son pédigré. C'est vraiment un mentor dans ce domaine. Et c'est l'ambassadeur des rencontres de la diplomatie culinaire. Et effectivement, il est à nos côtés et il chapeaute toute la partie gastronomique. Et on le remercie ce soir.
Justement, à vous deux, quelle est la tonalité de cette année, l'année dernière? Effectivement, vous nous aviez dit sur cette même antenne, dans Les Informés, que c'était la découverte des produits terroirs, c'était aussi la découverte de cette mixité entre la France et le Maroc. Quelle est la tonalité de cette de seconde édition de cette année?
Alors justement, cher Adil, surtout au jour d'aujourd'hui, avec les relations diplomatiques qui ne sont pas au beau fixe, justement ça va permettre une facilitation justement du dialogue diplomatique à une époque où justement les malentendus existent. et souvent exacerbée par les réseaux sociaux. Donc favoriser justement une coopération plus soutenue avec le Maroc et avec la France évidemment, mettre tout ça en valeur et passer deux jours autour de cette diplomatie. Et pourquoi diplomatie justement? C'est pour favoriser ces liens entre les deux rives, donc à savoir le Maroc et la France cette année, mais on compte par la suite intégrer d'autres pays.
Dans cette soirée de gala, juste quand vous dites d'autres pays, vous pensez à qui?
Voilà,
ça peut être l'Algérie, ça peut être la Tunisie, l'Afrique, vraiment tous les pays, l'Afrique subsaharienne. Exactement. L'Afrique subsaharienne, on peut aller au même, on a des propositions pour les organiser, mais par contre, c'est pas encore confirmé dans le Moyen-Orient.
Dans le Moyen-Orient, dites-moi, vous nous avez parlé de cette soirée de gala, cette année, justement, quelles sont les personnalités qui seront présentes et à quoi peut-on s'attendre durant cette soirée de gala, justement?
Alors, la soirée de gala, justement, ce sera les chefs français et chefs marocains qui concocteront un repas, un dîner, donc de l'entrée jusqu'au dessert, avec les élèves de Médéric, du CFA Médéric. C'est ça l'idée aussi, c'est de favoriser justement l'accès à tous ces jeunes à prétendre à des métiers qui sont très nobles de nos jours, hein, autour de l'art du service, l'art de la table. Une soirée avec des personnalités politiques, avec des consuls, des ambassadeurs, des présidents de région. On a aussi des acteurs, on aura des humoristes. Voilà, le organisateur de gala, c'est vraiment très très riche. Et on compte passer une excellente soirée. Et justement, la petite... le plus qu'on a derrière, justement, on a signé une convention avec un orphelinat et ces fonds qu'on récoltera seront destinés à cet orphelinat d'enfants abandonnés.
Exactement.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent, Naïma Sifer, Rachid Saïdi, justement, dans le cadre de cette seconde édition de la rencontre de la diplomatie culinaire qui se déroule, on le sait désormais, c'est officiel, à l'UNESCO le 22 et le 23 septembre prochain?
Eh bien, on leur dit, n'hésitez pas à venir nous solliciter pour avoir l'accès à l'UNESCO. On va passer deux jours de joie, de bonheur, de bonne humeur. Tout ça autour de la gastronomie, de l'art culinaire. Et on les attend avec impatience.
Et je rajouterais, je voulais juste aussi, Adil, remercier un petit peu tous nos partenaires et tous nos sponsors qui étaient avec nous depuis le début, qui nous ont fait grandir. Je remercie particulièrement la boîte de communication. Exact. Et après, je rajouterais aussi, parce que sans leur présence et sans leur appui, l'école CFA Médéric Paris-Rungis, oui, sont la personne de Nadia Mazouzi et de Jean-François, qui nous ont épaulés, qui organisent cet événement-là. Et pour vous dire, Adil, on le fait de manière un peu bénévole, sans aucune prétention ni politique ni financière. Et on le fait pour rester et pour partager un moment pendant un dîner de gala. Et parfois, des tables comme ça, des rencontres, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Et on a pu aussi, pourquoi on a choisi cette école-là, c'est pour encourager les jeunes et les élèves, surtout les jeunes de nos quartiers, pour ces métiers-là de service, de cuisine. Et pour vous dire, qu'est-ce qu'il faut pour rajouter encore, il y a les sommeliers aussi de thé, les sommeliers de vin. Il y a la présence de plusieurs produits qu'on ne connaît pas, par exemple au Maroc, qu'on ne connaît pas en France. Donc c'est un mélange de beaucoup de cultures et cette année-là est encore beaucoup plus riche que la première édition et j'espère qu'on continuera dans ce chemin-là.
Merci Rachid.
Merci à vous deux. J'ai eu un problème avec mon micro. Merci à vous deux. Merci à Naïma Sifer. Merci à Rachid Saïdi.
Merci.
Donc pour la rencontre de la diplomatie culinaire et ça se passe à l'UNESCO le 22 et le 23 septembre prochain. Merci. Bon courage. Bon voyage dans cette rencontre culinaire.
Et bienvenue parmi nous, cher Adil.
Eh bien, écoutez, je tâcherai de faire un saut avec grand plaisir. Merci pour votre invitation. Merci à vous.
Merci. Bonne soirée. Oui.
soirée. Ciao, ciao. 18h30, 01 53 48 3000. Nous continuons d'ouvrir l'antenne avec nos auditeurs. Auditeurs, pour parler des trois sujets que je vous proposais. J'avais un appel là, non? C'est Nora. Bon, elle est partie. 01 53 48 3000, vous nous appelez. Tout de suite, je vous attends pour parler des trois sujets que je vous ai proposés. Je vous ai parlé évidemment de la famine qui règne, du gâchis alimentaire, et je vous ai livré ces chiffres qui font mal au cœur, qui déchirent. Une personne meurt de faim dans le monde toutes les 4 secondes. Ça, c'est des alertes des ONG. On parle à peu près de 850 millions quand même concernés. Donc, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, comment vous vivez la religion, de confession musulmane, comment vous la vivez dans votre quotidien? Est-ce que vous trouvez que c'est de plus en plus compliqué? Ou pas du tout? Est-ce que vous trouvez notamment que il y a évidemment une espèce d'ambiance délétère qui règne parfois et que ça vous dérange, comme tout à l'heure l'auditrice qui nous disait l'envie de se barrer parce qu'elle en peut plus, ça devient irrespirable. 01 53 48 3000, c'est des sujets qui nous concernent tous. Partout en France, je voudrais vous entendre parce que c'est très important. Le standard, il est ouvert et je vous attends là parce que je voudrais converser avec vous, écouter votre point de vue, ce qui vous anime et évidemment ce qui vous préoccupe. Pour les footeux ou pas, on parle aussi du Qatar. Le Qatar, avec cette Coupe du Monde qui se déroule le 20 novembre prochain. Et de plus en plus, vous savez, on parle d'un boycott qui fait débat. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a des stades qui sont climatisés, mais on a aussi les droits humains. Le pays du Qatar est rattrapé donc avec cette question, avec ces thèmes. Et aujourd'hui, beaucoup considèrent qu'ils devraient le boycotter. Bon, ça fait débat. Il faut en discuter. 01 53 48 3000. Je vous attends. Parlons-en justement là maintenant, tout de suite, au standard 01 53 48 3000. Je vous attends là maintenant, évidemment avec ces trois sujets que je vous propose tout de suite. 18h30, en attendant vos appels, en attendant de prendre vos appels, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face est avec Jean-Pierre Colombiès. Bonjour. Comment ça va, Jean-Pierre?
Eh bien, très bien. Toujours ravi d'être parmi vous sur l'antenne où on peut parler librement.
Tirez bien le micro. Voilà, vers vous. Le retour de Raïed Chaibi, le président de l'association franco-tunisienne. Bonjour, Raïed. Bonjour, président. Bonsoir. Le micro doit être ouvert. Voilà, tout va bien.
C'est bon, vous m'entendez. Bonsoir, Adi.
Super. Et Jérôme Colombiès, pardonnez-moi de vous avoir. Jean-Pierre Colombiès, j'ai manqué de vous présenter. Ancien commandant de la police, aujourd'hui auteur, comédien, et il est plus que jamais évidemment présent. Vous préparez quelle pièce?
Une pièce policière, une comédie policière qui se jouera dans le 19e arrondissement, Porte de Pantin, qui s'intitule Piège pour un homme seul. Une comédie de Robert Thomas, qu'on a un petit peu oublié, qui était un auteur spécialisé dans les comédies policières.
Oui, absolument. Bref, nous allons parler dans une poignée de secondes des sujets qui nous concernent. On en a pas mal, hein.
Ben, j'ai vu ça, oui.
On verra si on a le temps de traiter. Ouais. Si on a le temps de tout traiter, tant mieux. Et des sujets comme par exemple Katniss, Adrien. C'est tendu. Et quand on voit que certains mouvements politiques portent des thématiques, notamment liées, là, par exemple, aux violences faites aux femmes, et qui sont longtemps passés comme donneurs de leçons, ça fait mauvais genre. Ouais. Takfarinas, qui nous appelle du 93. Oh, Takfarinas, il a eu un problème avec ceci. Bon, 01 53 48 3000, je vous attends au standard. Messieurs, tout de suite, je voudrais qu'on parle du retrait. De plus en plus, on parle d'un retrait, de démission même, du député d'Adrien Katniss. Ça fait polémique parce qu'on lui demande, beaucoup réclament, sa démission. Et puis, les partis veulent mieux prendre en compte les violences faites aux femmes, notamment LFI qui s'est saisi de cette question-là. Jean-Pierre Colombiès.
Oui, alors c'est quand même assez particulier, paradoxal, oui, parce qu'effectivement, il a même pris la parole dans l'hémicycle pour dénoncer très particulièrement, très précisément ce type de contexte. Et c'est un petit peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Et ça ne prendrait peut-être pas autant d'ampleur si, effectivement, comme vous venez de le rappeler, très cher Adil, ce parti-là, enfin, cette mouvance politique, la NUPES, dans son ensemble, ne s'était pas faite le porte-drapeau de la lutte, à juste titre, du reste, des violences faites aux femmes. Et on assiste à quelque chose, d'ailleurs, d'assez gênant même dans cette histoire, puisqu'on a aussi quand même des personnalités, on y reviendra peut-être, qui se donnent aussi, qui endossent très facilement, de manière presque impudique, le rôle de fou qui est un vil des temps modernes, en adressant des sortes de certificats de bonne ou mauvaise conduite. Je pense bien évidemment à l'inénarrable Sandrine Rousseau, qui est en train de désinguer les uns après les autres les personnalités politiques qui lui plaisent de désinguer. Je trouve ça, c'est malsain, très malsain. Adrien Quatennens, de toute façon, est député. Son avenir, il le tient entre ses mains. On ne peut pas le faire démissionner, on ne peut pas l'obliger à abandonner son mandat. Donc il est seul, j'ai envie de dire, face à sa conscience et à ses engagements politiques. Alors que fera-t-il dans les semaines ou les mois à venir? Ben ça, l'avenir nous le dira. Maintenant, ça va être un
la
petit peu...
La pression monte.
Elle monte, et elle monte à juste titre. Parce que je rappelle quand même, c'est bien toujours de faire des petits rappels, vous savez, dit que j'aime bien l'histoire et que j'aime bien les faits. Moi, j'aime bien quand on est concret. Je rappelle quand même qu'une certaine Sandrine Rousseau, pour la ramener à cette dame de la NUPES, cette dame avait tiré à boulet rouge de façon absolument irréfléchie contre Dami Abad, contre lequel il n'y avait absolument pas de preuve de sa culpabilité. Je peux même témoigner qu'il n'est coupable de rien par rapport à la plainte de 2007.
Ah, parce que vous avez eu à gérer cette affaire.
Exactement, c'est moi qui ai pris la plainte. Donc je connais un peu l'affaire, je connais certainement mieux qu'elle, puisqu'elle s'était permis de prendre parti pour une affaire qu'elle ne connaissait pas. Tous ces gens qui se sont exprimés n'ont pas eu connaissance de la plainte. Et ce que je trouve assez dommage et très dangereux pour la démocratie, c'est qu'on tient actuellement des sortes de procès médiatiques sur les plateaux télé, sur les chaînes de radio. Elle est en train de faire le procès de Julien Bayou en ce moment, elle est en train de nous expliquer qu'il est coupable de harcèlement moral, mais j'ai envie de dire, mais qui est-elle pour dire ça? Donc j'ai un peu la sensation que...
Elle condamne.
Elle condamne, voilà, elle s'autorise.
Elle distribue des cartons.
Exactement, mais sans aucune légitimité pour le faire, et c'est très très dangereux. Et je me demande si quelque part, elle n'est pas un peu l'idiote utile de la NUPES, puisque à force de lui tendre le micro, elle finit par desservir au maximum la cause, justement, de la défense des femmes, en faisant tout et n'importe quoi, en faisant des déclarations qui n'ont ni queue ni tête, et surtout, qui ne reposent pas sur la réalité des faits. Donc, il y a des affaires qui nécessitent de prendre du recul et de s'interroger sur la réalité des faits. Puis là, c'est un peu particulier avec Damien, avec Monsieur Quatennens, parce qu'il a reconnu avoir donné une gifle, avoir été violent avec sa compagne.
Il reconnaît, il s'excuse, il fait son mea culpa.
Ah oui, mais là, je ne sais pas si ça suffira. De toute façon, là encore, je rappelle les uns et les autres.
Un peu comme Benjamin Griveaux, est-ce que son avenir, il est out?
Bah, il est out pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, Benjamin Griveaux n'a violé ni agressé qui que ce soit, que je sache. Il a commis une faute. Bon, enfin bon, je veux dire, on ne veut pas faire les moralisateurs ici. Hein. Je suis désolé que celui qui a jamais péché lui jette la première pierre. On n'est pas là pour ça. C'est pas la même chose. Faut pas tout confondre. Hein. Monsieur Quatennens, lui, il dit oui, voilà, j'ai commis une faute. Par contre, la question que ça pose, c'est est-ce qu'il est encore légitime pour porter le message contraire par rapport à sa propre faute?
Surtout que vous avez lâché un mot. Il s'est fait le porte-voix.
Exactement.
Porte-drapeau.
Exactement. Et le culpabilisateur.
Ça, c'est compliqué quand
et
même.
Et le moralisateur dans l'hémicycle.
C'est compliqué, parce que moi, je l'ai entendu, Adrien Quatennens, à plusieurs reprises, évidemment.
Bien sûr. Hein, lui et les autres.
Monter au créneau, et évidemment, il a eu raison de le faire.
Et lui et les autres. Oui, mais il ne faut pas être soi-même coupable, il ne faut pas juger les autres, chercher la paille dans l'œil de l'autre, alors qu'on a soi-même une poutre. Et ce qui est d'autant plus navrant encore, c'est l'attitude de ses petits camarades. Et le premier d'entre eux, notre ami Mélenchon, qui lui apporte dans un premier temps son soutien en accusant la police. Alors, c'est ça quand même qui est fort de café. Il parle de malveillance policière. Enfin, ça me fait doucement marrer, Adil, parce que je peux vous expliquer
comment
ça se passe.
Parce que la main courante
Elle a voyagé, la main courante. Elle a voyagé dans tous les états-majors de France et de Navarre.
Bon. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après. Je vous donne la parole, évidemment, Rayad Chaibi, 0153483000. Vous continuez à nous appeler sur les trois sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. Vous êtes évidemment, bien sûr, prioritaire. A tout de suite.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
18h43, vous le savez, Les Informés, c'est aussi avec Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de police, aujourd'hui comédien, auteur, mais également le président de l'association franco-tunisienne, Raïd Chaibi, à qui je donne la parole. Et puis le 0153-48-3000, le standard est ouvert et il reste ouvert, vous êtes prioritaire jusqu'à 19h30. Raïd Chaibi.
Bah, par rapport à l'affaire Quatennens, bon, déjà, avoir une pensée déjà pour celle qui est victime de ce qui s'est passé, déjà, dans un premier temps, je pense que faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Ensuite, la morale, quelque part, de ce qui est en train de se dérouler, c'est que finalement, aucun parti n'a le monopole de la morale et de l'exemplarité sur ces sujets. Et je pense que là, la France insoumise l'apprend à ses dépens, mais de manière foudroyante.
Cruelle.
Foudroyante et cruelle, vraiment. Après, tout à l'heure, tu parlais de Sandrine Rousseau. Moi, ce qui me choque quelque part, c'est que elle, dans une émission sur C'est à vous, elle avait annoncé avoir reçu l'ex-compagne de Julien Bayou, qui lui avait fait part des violences qu'elle aurait subies psychologiques,
l'ex-compagne,
des violences psychologiques effectivement, et qu'il aurait même poussé à vouloir se suicider.
À Valois, elle dit qu'elle était dans un état très déprimé.
Mais pourquoi n'a-t-elle pas alerté la justice? Ça, c'est une question que je me pose. Parce que quand la journaliste la relance en lui disant « mais il va y avoir une ouverture d'une enquête, paraît-il », elle dit « oui, journalistique ». D'accord, l'enquête journalistique, très bien. Mais je pense que la justice aurait dû être saisie quand on est, comment dirais-je, confronté ou témoin à des faits aussi... aussi grave. Après, sur la démission d'Adrien Quatennens, je pense que sa situation va être très lourde à vivre et à supporter. Grosse pression, parce que je n'imagine pas un seul instant pouvoir, au moment où on se parle, porter une parole au sein de la représentation nationale. D'accord, parce qu'il est quand même député, il est parlementaire, donc il a une responsabilité, surtout qu'il s'était déjà exactement, il s'était déjà mis en rentrée là-dessus, mais porter une parole surtout sur des sujets où il s'était élevé lui-même sur ces thématiques, ça semble compliqué. Je pense que en plus de son retrait, à un moment donné, effectivement, la question de sa démission paraîtra, à mon sens, inéluctable.
Inéluctable. 0153483000. On va aller direction Perpignan. On va recevoir Noureddine. Bonjour Noureddine.
Oui, bonjour. Comment
bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie, cher Noureddine?
Alors, actuellement, là, je suis conducteur super lourd, là, je travaille pour la poste.
Ça va, ça se passe bien?
Ça va, quand ça roule bien, ça va très bien.
Bon. On vous écoute, mon cher Noureddine.
Alors, je vous appelle parce que bon, je viens d'allumer la télé, enfin, pardon, la radio, j'ai écouté qu'il y avait une personne qui en avait marre de vivre ici, comme je pense qu'elle était musulmane.
Oui, musulmane et voilée, depuis peu.
Voilà, je voulais parler de ce sujet, donc je pense que moi je la comprends, cette personne-là,
oui.
Je comprends tout à fait. Surtout aussi, moi j'aimerais parler d'un sujet très important, c'est concernant l'éducation de nos enfants. Donc on a l'impression qu'en France, on veut contrôler nos enfants, donc on ne peut pas les éduquer comme on le veut. Certaines personnes, ils ont dégueulassé, mais ils ont sali la couleur de l'arc-en-ciel. Donc ça, c'est très très grave quand même. On parle que de ça. Ça, l'éducation pour nos enfants, que ça soit musulmans, chrétiens, juifs, ça c'est interdit chez eux, c'est interdit chez tout le monde. Donc voilà, ce sujet-là, déjà, c'est quelque chose qui dégoûte. On n'a même plus envie de rester ici. Moi, le premier, j'ai envie de me barrer, comme a dit la fille, quoi. Voilà, et aussi, moi j'ai remarqué aussi, beaucoup de Français, quand ils vont... dans les pays maghrébins.
Bon, ça fera peut-être réagir, vous le savez. Ça fera réagir. En même temps, vous avez livré votre point de vue, mais sachez que ça fera réagir.
Oui.
Ce que
et
vous
après,
dites.
Je voulais dire aussi, beaucoup.
Mais attention à ne pas sombrer, parce qu'il y a des choses qui peuvent être sous le coup de la loi. Vous savez, c'est pour ça qu'on. Là, je vous écoute attentivement. Vous êtes à la lisière, hein. Attention.
Moi, je voulais dire aussi il y a beaucoup de Français qui vont dans les pays maghrébins. Ils sont super bien accueillis. Nous, en France, on est l'accueil, mais c'est pas comme les Français quand ils vont au Maroc ou bien en Algérie ou bien en Tunisie ou bien dans les pays africains. Ils ont un accueil, mais chaleureux, quoi. Nous, on aimerait avoir cet accueil-là. Nous-mêmes, quand on va dans notre pays, on est moins accueillis que les autres, quoi.
Bon, écoutez, vous nous avez dit ce que vous vivez, vous. Bon, merci Noureddine de Perpignan. Merci à vous. Je le rappelle que toutes les interventions, elles sont en toute liberté d'expression. Vous le savez, chers amis auditeurs. Mais vous le savez aussi que les propos que vous tenez, évidemment, doivent rester dans le cadre, évidemment. Dans le cadre de la loi, dans le cadre évidemment de tout ce que vous connaissez, j'ai pas besoin de le citer, hein, parce que on engage aussi la radio et on engage aussi évidemment un certain nombre de choses pour éviter évidemment tout problème. Voilà, c'est important de le dire. 0153 48 3000, continuez de nous appeler. Messieurs, nous parlons justement de la démission de Quatennens qui est sur la table. Alors, eux, bon, LFI est très embarrassée. On le voit bien. Selon vous, est-ce que vous pensez qu'Adrien Quatennens doit démissionner? Doit-il démissionner?
Oh bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que sa démission paraîtra inéluctable.
Au mise en retrait.
À un moment où... Je pense. Il suffit de voir d'ailleurs la conférence de presse qu'a donnée la groupe NUPES. Enfin, surtout, c'était surtout la LFI qui avait fait la conférence de presse à l'Assemblée nationale. C'était glauquissime.
Pourquoi
parce que vous aviez un journaliste qui avait relancé à deux reprises Mathilde Panot sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Elle s'en est tenue là sans même répondre. Et ensuite, Daniel Obono a pris la parole. Je peux vous garantir que j'étais étonné de voir une Daniel Obono comme ça, c'est-à-dire bégayant, ne sachant quoi répondre. Il y a une gêne incontestable au sein de LFI. Et sincèrement, je suis très dubitatif quant à l'avenir d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. En tout cas, en l'état actuel, il n'est plus légitime, en tout cas, à pouvoir parler ou en tout cas porter la parole au sein de la représentation nationale. Ça semble quand même très compliqué.
Ça sent pas bon.
Surtout après les leçons de morale que lui-même avait prodiguées, ainsi que ses collègues, sur ce sujet-là, pour d'autres responsables.
Qu'il est décrédibilisé totalement.
Jean-Pierre Colombier,
décrédibilisé, c'est le bon mot.
À géométrie variable. C'est ça qui est insupportable.
Décrédibilisé, c'est le bon mot.
Ils ne se réveillent, ils ne sont indignés qu'en fonction de leurs intérêts propres ou de leurs intérêts électoraux. Et ça, c'est pas possible, c'est pas entendable. Suivant qui est agressé, on va se révolter ou pas. Dès que c'est hors du cercle NUPES, c'est scandaleux et inacceptable. Dès que ça rentre dans la sphère NUP, là, tout à coup, on va trouver toutes les excuses, toutes les justifications. On n'a pas fini, certainement, d'entendre les raisonnements les plus ubuesques que les uns que les autres. On va voir ce que ça va donner. Je rappelle quand même que rien ni personne ne peut forcer Adrien Quatennens à démissionner.
Et vous dites quoi?
Je pense que oui, effectivement, je vois pas comment il pourrait rester. Pour les autres cas que vous avez cités, Adil, que ce soit Benjamin Griveaux ou Damien Abad, de preuves absolues, tangibles, judiciaires, et j'insiste là-dessus, parce que faut arrêter aussi cette agora judiciaire sur les réseaux sociaux ou sur les médias, mais de point de vue judiciaire factuel, sur les deux autres cas que vous avez cités, il n'y a rien. D'accord? Là, on est sur un cas, par contre, concret, avec, en plus, une reconnaissance, un aveu des faits, des incriminations. Donc, on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc, effectivement, monsieur Quatennens, je crois que son temps à l'Assemblée nationale est compté.
Son temps à l'Assemblée nationale est compté. 0153483000, vous continuez de nous appeler, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après dans une poignée de minutes. À tout de suite, je vous attends aussi au standard.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
18h55, Les Informés, c'est aussi avec Jean-Pierre Colombiès, mais également aussi avec Rayed Chaibi. Et tout de suite, le standard 0153483000. Tiens, on me signale qu'on a Djemel de Toulon et qui tient un militant de la NUPES. Ça nous intéresse. Bonjour Djemel.
Comment allez-vous?
Très bien, très très bien. Alors, vous, militant de la NUPES, comment vous vivez tout ça?
Oui, j'aime beaucoup leurs idées, les idéaux de la NUPES, c'est vrai. Après, je pense qu'il faut voir des choses un petit peu de hauteur. Est-ce que vous pensez qu'il est légitime, en fait, d'un patron même qui a levé la main dans son intérieur, en fait, dans sa sphère privée, d'accord? C'est toujours en fait la même problématique, que ça soit pour le NUPES ou pour les autres personnes, d'accord? Il faut avoir une justice équitable pour le monde. Et je vois pas trop bien ce qui vous dérange dans sa politique de défense, en fait.
Attendez, ça fait réagir nos débatteurs. Jean-Pierre Colombiès, vous voulez intervenir?
Oui, c'est Djemel. Hein, bonsoir, Djemel de Toulon. Djemel. Moi, je vous renvoie simplement.
Bonsoir.
Je vous renvoie simplement la déclaration, une nouvelle fois, de Sandrine Rousseau, qui, sur un plateau télé, donc vous m'accorderez que Sandrine Rousseau fait partie de la NUPES, a déclaré un jour que le judiciaire devait se mêler du cercle privé et que la politique aussi devait s'en mêler. Donc, c'est pas nous autour de ce plateau, autour du plateau de Beurre FM, qui décidons de ça.
D'accord.
Mais sachez simplement, si je peux me permettre, un petit rappel de la procédure. Ce ne sont pas les médias qui ont rendu public cette histoire de gifle. C'est la compagne de Monsieur Quatennens qui a déposé plainte. Elle n'a pas déposé plainte, elle a déposé une main courante. Donc c'est cette dame, légitimement, qui a externalisé sa plainte. Donc qui l'a fait sortir de la sphère privée. Pour autant, sphère privée ou pas, c'est pas tout à fait normal de claquer sa femme.
Djemel?
Non, bien évidemment, c'est tout à fait. Bien évidemment, d'un point de vue moral, c'est totalement C'est totalement illégal et totalement, c'est totalement pénal. Mais on rend nos politiciens, comme dirait Nietzsche, humains, trop humains, en fait. Et ça en devient, lassant, j'allais dire. C'est pour ça.
Vous, Jamel, qui êtes militant de la NUPES, Jamel, est-ce que vous considérez, franchement, je vous pose la question, est-ce que le député Adrien Quatennens doit démissionner ou se mettre en retrait?
Honnêtement?
Oui, pour moi, honnêtement.
Voilà. Voilà, pour moi, bien sûr que non. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, qu'il faut qu'on idéalise des hommes politiques, en fait. Et c'est très dramatique. J'espère que d'un point de vue judiciaire ou que d'un point de vue moral, ils s'en remettent.
Ouais.
J'espère que l'idéologie de son combat aussi en ira plus loin.
Voilà, ce combat, c'est celui-là.
Ouais.
Les militants de la NUPES soutiennent. Moi, je vous ai vu sur les réseaux sociaux. Ils soutiennent Adrien Quatennens. Hein, Red, vous voulez interpeller Jamel?
Oui, bonsoir Jamel.
Bien sûr qu'on le soutient. Oui, bonsoir monsieur.
Non, allez-y, continuez.
Oui, bien sûr, je pense qu'il faut le soutenir, en fait, parce que, en fait, le soutenir en tant qu'homme, en tant qu'individu, et en espèce de se retrouver sur un carcan moral, vous voyez, d'un coup, il devient l'emblème de l'homme occidental qui frappe sa femme chez lui. Oh mon Dieu, que c'est grave. Vous comprenez, c'est trop de responsabilité pour un seul homme, en fait. Et il faut délégitimiser et dédramatiser l'homme politique, en fait. Voilà. Est-ce qu'un homme politique garant, on peut parler de Jacques Chirac, on peut parler de tous les hommes politiques, de la 4e et de la 5e République. Si nous mettons ça sur la table, cher monsieur, allons de partout. Voilà. Ne faisons pas du cas par cas.
Raïd Chaibi souhaite vous interpeller. Allez-y, Raïd.
Vous conviendrez avec nous que nous sommes aujourd'hui dans une ère, dans un monde, dans une actualité, ou en tout cas dans une séquence, et qui, à mon avis, va durer, et c'est tant mieux, où il y a des comportements qui ne peuvent plus être acceptable, et qu'il y a ce devoir d'exemplarité à tous les niveaux, notamment sur ce sujet qui est quand même très important. Et moi, ce que je voudrais vous demander, c'est que deux choses. La première, c'est est-ce que vous ne pensez pas vous-même que le geste qu'a fait Adrien Quatennens, ça va jeter totalement le discrédit sur sa fonction, sur ce qu'il représente au sein de l'Assemblée nationale, puisqu'il était quand même un des ardents défenseurs de cette lutte en théorie contre les violences conjugales, première chose. Et deuxièmement, est-ce que vous n'avez pas ce regret aussi quelque part, là je parle aux militants, puisque je suis moi-même militant, pas forcément dans le même parti, mais je respecte les militants parce qu'ils sont très engagés, ils le font avec le cœur et avec les tripes, si passez-moi l'expression, mais est-ce que c'est pas regrettable qu'à cause de ce type de comportement ou des déclarations qui peuvent paraître lunaires, notamment de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça n'est pas regrettable de voir votre combat à vous, Jamel, prendre un coup? Et parce que vous êtes militant et vous le faites sincèrement, et puis vous vous battez pour ses convictions et pour ses idées, mais qui sont écornées par le comportement de ses propres,
Jamel,
de ces responsables-là, des responsables,
Jamel,
de votre mouvement. Est-ce que c'est pas,
Jamel,
regrettable?
Jamel. Allô, Jamel. Allô. Non, je crois qu'il est là. Jamel, vous êtes où, Jamel?
Non, allô.
Oui.
Alors, je suis là.
On vous écoute, mon cher Jamel.
Là.
Qu'est-ce que vous répondez à Red Chaibi?
Voilà, vous allez. Voilà, pourtant c'est très clair ce que je vais. L'homme politique est un artiste, en fait. Et peut-on dissocier l'œuvre de l'artiste? C'est incroyable. Je veux dire que les hommes politiques aient une vie privée et que dans cette vie privée cela déborde. C'est incroyable de mettre cela sur la place publique, mais je veux dire, c'est typiquement occidental et c'est typiquement en 2022. C'est exactement ce qui s'est passé en Finlande, où on a vu la députée boire de l'alcool, taper de la cocaïne et venir devoir s'excuser pour dire « Oh mon Dieu, je suis sorti. Oh mon Dieu, j'ai un conflit avec ma femme. Oh mon Dieu, dans ma sphère privée, j'ai dû frapper ma femme. » Mais chose que je ne conçois
Jamel.
Pas. En tant qu'individu.
Jamel, ça va faire
d'accord.
beaucoup.
Mais à quel moment? Oui.
Ça va faire beaucoup réagir, mon cher Jamel. Ça va faire beaucoup réagir. Merci d'être passé. Déjà, vous avez eu le courage, vous, militant de la NUPES, de venir exprimer, évidemment, votre soutien à afficher.
Je vous en prie. c'est en tant qu'individu aussi, en tant que personne morale et de soutien, oui. Voilà, je
merci
vous souhaite une bonne continuation. Merci de m'avoir écouté.
Bonne soirée. Mais je vous en prie. Justement, ça fait justement, messieurs, ça fait réagir. Malika de Drancy. Bonjour, Malika.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Malika?
Alors, Malika, j'étais ancienne DGA, directrice générale adjointe d'une collectivité.
On vous écoute, bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire?
Alors, sur cette affaire, bien évidemment, je ne cautionne absolument pas la violence. Par contre, ce que je voulais dénoncer, c'est les hypocrisies politiques, notamment sur les violences, qu'elles soient institutionnelles ou conjugales. C'est ce que vous avez sur votre plateau, Monsieur Shelby, qui fait partie de la d'une famille politique qui m'a quand même et qui a été condamnée pour harcèlement moral.
Oui.
Donc.
Vous connaissez, non?
Oui.
D'accord.
Comment?
Non, allez-y, Malika.
C'est quand même une. Alors moi, je suis au pénal actuellement. Hein, j'ai pas mal de plaintes qui sont en cours, mais c'est quand même, je trouve, démagogique, hypocrite aujourd'hui de venir défendre, en tout cas de venir critiquer, dénoncer effectivement un acte que je ne cautionne absolument pas, quand on sait que de toute évidence il y a des pratiques qui ont été faites dans les partis politiques dans le même sens, hein, que les violences soient psychologiques, morales, pour moi c'est la même, hein, puisque à un moment donné il y a aussi une atteinte à l'intégrité physique qui s'engendre automatiquement. Donc, moi, j'aimerais qu'on m'explique quand même. J'aimerais qu'on m'explique comment, en France aujourd'hui, alors vous êtes harcelé moralement, vous faites des procédures, vous êtes en justice. Moi, en tout cas, la ville pour laquelle contre qui j'ai porté plainte, hein,
elle
a été condamnée. Le harcèlement moral a été reconnu. Donc, juste condamné, reconnu, les personnes qui étaient coupables de harcèlement moral, vous aviez quand même certains élus, et ces élus-là, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, n'ont jamais été inquiétés. Donc, on détruit une vie, on détruit une carrière, et aujourd'hui, on essaye de vous dire « Ah, mais c'est pas bien ce qu'a fait la LSI. » Mais en fait, avant d'aller critiquer les autres, il faut déjà regarder chez soi.
Merci Malika, effectivement, de nous avoir rappelé un certain nombre de choses.
Je peux quand même intervenir.
Oui, bien sûr, allez-y. Et ensuite, j'irai accueillir Mériam de Paris.
Je la connais fort bien, donc je ne vois pas quel est le rapport avec moi, parce que ce n'est pas moi qui suis concerné par la procédure. C'est une commune, c'est une collectivité, donc je n'y suis pas. Donc je ne suis pas absolument pas concerné. Le parti auquel elle faisait allusion, bah, disons les choses telles qu'elles le sont, à l'époque, c'était la municipalité de Bobigny, donc qui était entre les mains de l'UDI. Je ne suis plus à l'UDI. Si la justice a tranché en sa faveur, ben écoutez, c'est une décision de justice. Si elle a été reconnue effectivement victime, eh bien écoutez, je suis totalement solidaire de ce que la justice, comment dirais-je, a décidé, et ni je ne cautionne ni je ne cautionnerai quelque forme d'harcèlement que ce soit. Donc ça serait bien de mettre de côté ses rancœurs politiques et personnelles et de ne pas tout mélanger. Voilà.
Voilà, c'est dit. Mériam de Paris, messieurs, ça fait réagir, hein, les auditeurs ont la parole.
Laissez attendre, oui.
Oui. Mériam, bonsoir, bonjour.
Oui, bonsoir, bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Mériam?
Alors, je suis comptable.
Ma chère comptable, on vous écoute, ma chère Mériam.
Ben, en fait, j'appelais par rapport justement au débat qui, pour moi, il n'y a pas de débat à avoir, en fait, à partir du moment où c'est une personne qui est là justement pour représenter et nous représenter et nous donner un exemple.
Ouais, c'est ça qui est à dire.
Et ben, il n'y a pas de débat à avoir, en fait. Tout simplement, la personne, elle doit démissionner ou se faire renvoyer, tout simplement.
Ouais.
On ne peut pas la renvoyer. On ne peut pas la renvoyer.
On ne peut pas.
Renvoyer, on ne peut pas, mais je partage. C'est comment ça?
Mériam,
excusez-moi. Je partage effectivement votre avis, et de toute façon, comme nous l'avons dit, sa situation paraît intenable du fait du contexte dans lequel tout ceci s'est déroulé, et que de toute façon sa parole est et sera décrédibilisée.
Merci Mériam.
Merci à vous.
Merci. Tiens, je vais accueillir Fatima de Paris. Bonjour Fatima.
Bonsoir Adil, comment allez-vous?
Bonsoir notre fidèle auditrice, mais je vais très bien. Quel plaisir de vous entendre, ma chère Fatima.
C'est plus que fidèle. C'est une addiction.
Exactement, une addiction.
Oui, mais une bonne addiction.
Quel plaisir de vous entendre, on vous écoute.
Merci beaucoup. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça devient de plus en plus grave en France. Oui. On n'a plus besoin de la justice, donc il faut fermer les tribunaux dans ces conditions. Une affaire familiale qui devient une affaire d'État, une affaire politique. Mais Adrien ne représente. Je suis pas nue, pas du tout. Ouais. Je suis à 10 000 kilomètres de leur ouais. idée, quoi. Ouais. Adrien ne représente pas la France, il représente sa circonscription.
Ouais.
Il y a eu une affaire entre un homme et une femme, mais personne ne sait comment ils sont arrivés là, comment ça s'est passé. Si monsieur a pété un plomb parce que madame... je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'avais un proche. Et ce proche, il avait une femme, je vous dis pas, tous les jours, elle cherchait la bagarre avec lui. Et qu'est-ce qu'elle lui disait? Allez, frappe-moi, Adelbani, frappe-moi. Et lui, il voulait jamais la toucher. Imaginez qu'un jour, il a levé la main sur elle. Mais elle le mettait hors de lui. Et ils ont fini par divorcer. Ouais. Sans que ce soit. Donc, des fois, il y a des femmes. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'un homme frappe une femme, parce que moi, je suis une femme. Mais cet étalage. Madame Rousseau, elle croit que les gens vont voter pour elle parce que elle est en train de dénoncer tout ça, de mettre le truc sur l'écologiste, là, comment il s'appelle
Julien Bayou.
Le Bayou, sa femme, elle est venue, c'est l'avocat des pauvres, maintenant, il faut qu'elle nous donne son adresse. À chaque fois qu'on a un problème, on va la voir.
Elle est géniale, Fatima.
Excusez-moi, mais c'est terrible. Moi, je suis effarée par ce qui se passe. L'affaire de PPDA, là. Il la prend, il la monte, je ne veux pas dire la suite. PPDA, il pèse 2 kilos.
Fatima, vous parlez, vous êtes... la plus sage qui soit.
C'est Jean-Pierre Colombier.
Je vous assure, c'est pas que je défends les hommes, mais moi je suis une femme et je sais comment se comportent certaines femmes. Je dis pas toutes les
tout
femmes. Il y a des femmes qui sont moralement
manipulatrices.
Voilà, il y a des femmes qui souffrent. C'est vrai qu'il y en a.
C'est l'ancien commandant de police qui parle.
Et qui connaît bien les dossiers.
Qui connaît bien ces dossiers. Merci Fatima.
Je vous embrasse, Wilde Adi.
Moi aussi, je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. Vous assurez-vous. J'aime beaucoup Fatima, vous savez, moi.
Elle est extraordinaire. J'ai souvent entendu.
C'est une fidèle d'auditrice.
Yes. Qui parle de ça avec beaucoup de sagesse.
Elle mérite la médaille d'honneur. Rachida de Paris. Tiens, et après, je vous distribue la parole. Rachida, vous faites quoi dans la vie, Rachida?
Je suis conseillère en consultante en évolution professionnelle.
Qu'est-ce que c'est beau! Oh là là!
C'est beau, hein? C'est beau. Le contenu est plus terre à terre. Donc j'accompagne effectivement parfois des personnes victimes de violences.
Parlons-en. On vous écoute.
Voilà. Moi, ce qui me surprend, alors effectivement, il y a deux choses. Il y a l'aspect la gifle. Donc même une gifle, c'est interdit. Pour un homme ou pour une femme, et à l'aspect médiatisation de l'événement. Il y a vraiment deux choses différentes. Donc, sur le principe de la gifle, il est hors de question, bien évidemment, même si, comme dit Fatima, la femme l'a énervée, elle est manipulatrice, ça ne donne pas le droit de claquer, je suis désolée. Voilà. Même si on pousse à bout, ça ne donne pas le droit de donner une gifle. De quel droit? Et après, effectivement, il y a le côté médiatisation de cet événement, et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière?
Bon,
le prénom de madame, c'est
Rachida.
Bonsoir Rachida.
Oui,
Jean-Pierre Colombiès.
Oui, moi je suis d'accord avec vous. Il y a un problème effectivement de médiatisation, mais qui va dans tous les sens. C'est-à-dire qui concerne pas du tout uniquement la NUPES, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, la NUPES malheureusement a souvent été la grande ordonnatrice des grands déballages médiatiques. C'est ça qu'on lui reproche aujourd'hui.
C'est-à-dire dès
qu'il y a eu un problème concernant, bon, on l'a dit tout à l'heure, Benjamin Griveaux, plus proche de nous, Damien Abad, on a eu droit à un véritable tribunal médiatique qui reposait uniquement sur un parti pris politique et non pas sur des faits concrets.
Tout à fait.
Et donc le problème de la NUPES, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ils apparaissent, ils sont pris dans le pot de confiture, alors qu'ils ont fait la morale pendant des mois et des mois à l'encontre de toutes les autres tendances politiques.
On a beaucoup d'appels, beaucoup d'appels
au
0-53-48-3000.
Pour rebondir ce que vous dites, la NUPES se positionne quand même, me semble-t-il, en droit, à la défense des femmes, victimes de violences, etc. Il y a quand même ça aussi.
Jean-Pierre, mais il y a un souci quand même notable. C'est que la NUPES considère que ses organes internes de contrôle sont supérieurs à la justice. Et ça, c'est pas entendable.
Ça faisait débat.
Quand on entend Sandrine Rousseau dire que la problématique de la compagne de Julien Bayou fera l'objet d'une enquête journalistique, moi j'ai des poils qui se dressent. Vous voyez.
Pourquoi une enquête journalistique? Une enquête tout court de justice. Pourquoi journalistique?
Nous sommes d'accord.
C'est ce que disait Rayet Chebbi tout à l'heure.
C'est l'article 40 du code de procédure pénale.
Nous sommes bien d'accord.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le mot journalistique qui est dérangeant.
Complètement. Oui. C'est bien ça qu'on entend.
L'article 40 du code pénal, c'est ça?
Oui, article 40 du code de procédure pénale.
Le problème, c'est que Sandrine Rousseau et ses petits copains, parfois, se placent plus sur le terrain de la calomnie, de la diffamation, que sur le terrain de la justice. Oui. Et ça, c'est
pas... Sandrine Rousseau, elle hante les tribunaux.
Non, malheureusement, non. Elle hante les plateaux télé, les plateaux radio, on le voit et on l'entend.
Je suis d'accord.
Allez, vous savez, comme j'ai beaucoup d'appels, Rachida, vous avez été remarquable. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Sonia de Bobigny. Bonjour Sonia.
Beaucoup de femmes m'appellent.
Bonjour.
Elles sont concernées, mais c'est normal.
Au premier chef.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sonia?
Ben, je suis secrétaire de direction.
Oui. Eh bien, on vous écoute. Ah. On écoute votre point de vue. Allez-y.
Ben, moi, mon point de vue, il est assez. En fait, je suis perplexe et surprise.
Oui, pourquoi?
D'entendre Rayet Chebbi.
Oui.
On va donner le mot ce soir.
Qui est de la vie.
Oui.
Qui est en parfaite connaissance de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à Bobigny, de les maltraitances que les femmes elles ont subies entre la majorité civile de l'époque.
Oui. Je rappelle qu'il n'est pas fait, il n'est pas question ce soir de refaire l'actualité de l'époque. Là, on
non, parle, pas du tout,
on
pas
parle
du
d'Adrien
tout.
Katnas.
Oui.
Tout à fait,
sinon
justement, je vais.
Sinon, chacun va m'appeler, évidemment, de sa ville. Moi, j'ai telle affaire,
Non, mais pourquoi je dis ça? Si vous me laissez m'exprimer, je vais rebondir sur l'affaire qui est en question, justement, et qui est en lien direct avec la charte de pont qu'ils ont mis entre la ville de Drancy et la ville de Bobigny, parce que c'était un petit peu exactement les mêmes problèmes. C'est facile d'avoir un double discours et de dire que tel et un tel, je ne donnerai pas de nom, qu'ils en font trop au niveau des médias, mais quand on a des élus, des acteurs sociaux de ces villes-là, de la 5e circonscription, qui se permettent de donner leur avis dans les médias alors qu'ils n'ont pas sorti l'article 40 pour ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans cette circonscription, c'est un petit peu choquant.
J'ai un problème de micro. J'étais pas en direct. Je suis désolé. C'était Sonia. Sonia, j'ai eu un problème de micro. C'est pour ça que je pouvais pas vous répondre. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, donc c'est les aléas du direct. Bon, je sais pas quoi dire, mais bon, j'avoue que j'ai du mal à vous suivre, Sonia. Moi, je n'ai pas évidemment suivi cette affaire et je ne sais pas quoi dire. Restons sur l'affaire. Comment dirais-je, Adrien Katnas. Sabrina d'Aubervilliers, bonjour.
Bonjour Adil.
Bonjour Sabrina. Qu'est-ce que vous faites dans la ville, Sabrina?
Ben, je suis retraitée.
Welcome. Vous vivez votre retraite pleinement. Vous avez bien raison. Sabrina, on vous écoute.
Voilà. Alors, moi, c'est une affaire qui n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui. Je viens d'être victime de racisme.
De racisme. C'est-à-dire. Ouais.
C'est-à-dire que je suis rentrée dans une poste parce que j'avais ma carte bancaire qui était périmée.
Oui.
Et comme je suis handicapée, je suis passée dans le bureau des prioritaires. Donc, ce que j'ai fait, comme il y avait du monde, j'ai été m'asseoir directement. Il y a une dame qui me dit, madame, il faut déposer votre carte d'abord.
Oui.
C'est ce que je n'ai pas fait. Mais à un moment donné, la dame du guichet était partie, je n'ai pas osé poser ma carte.
Vous savez ce que je vous propose, Sabrina? Attendez, Sabrina. C'est, comme c'est un sujet concernant le racisme, vous savez quoi? On va le traiter demain. Demain, je vais prendre vos coordonnées. Et demain, je vous appelle et on va parler de ça. On va parler de tout ce qui est racisme, évidemment, dans notre société. Ça vous va?
D'accord.
C'est mieux, parce que comme ça, sinon, on va éviter de s'éparpiller. Allez, messieurs. Jean-Pierre Colombiès, Raïd Chebbi. On reste dans le cadre, évidemment, des sujets. Tout de suite après la pause
On va
parce que
parler.
Certaines interventions sont absolument un peu téléguidées.
On va parler d'une personne qui meurt de faim toutes les 4 secondes. Et on parlera du Qatar. Pause. Et on revient tout de suite après. À tout de suite.
En fait, le...
Les informés, présentés par Adil Farkan. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, vous le savez, 19h24, vous êtes très nombreux à nous appeler et je vous en remercie infiniment au standard partout en France. Des sujets qui vous font évidemment réagir, mais aussi des sujets qui concernent notre quotidien. Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de police, aujourd'hui auteur, comédien, Rayed Chaibi, le président de l'association franco-tunisienne. Messieurs, une Coupe du Monde qui s'annonce sur un fond de polémique. On parle, vous savez quoi, de la Coupe du Monde qui démarre le 20 novembre prochain au Qatar. Sauf que, voilà, on parle de plus en plus de stades climatisés, on parle de droits humains. Alors, beaucoup parlent d'un appel au boycott. Vous dites quoi et vous répondez quoi et ça vous fait réagir. Jean-Pierre Colombiès.
Très rapidement, je trouve que c'est un peu tardif comme réveil, à un mois et demi, enfin, on va dire à deux mois du coup d'envoi. Il aurait fallu se poser exactement les mêmes questions lorsque le Qatar a été désigné sur un fond de corruption généralisée. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont des rapports qui se sont succédés, des avis qui se sont démultipliés. On sait très bien que le Qatar n'avait aucune légitimité à organiser cette Coupe du Monde pour plein de raisons. D'abord parce que politiquement, on a souvent organisé les Coupes du Monde dans les pays où il y avait déjà une certaine culture footballistique, une certaine culture sportive, et on voulait promouvoir le football. Or, il se trouve que le Qatar, je suis désolé, je n'ai pas le sentiment qu'avant cette Coupe du Monde, ils aient marqué l'histoire du football international. Donc il y a déjà un parfum, enfin une ambiance très sulfureuse autour de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Et effectivement, aujourd'hui, aller forcer des joueurs en pleine saison footballistique dans des stades climatisés, alors même qu'on nous rabat les oreilles avec le réchauffement de la planète, je trouve ça complètement incongru. Après, honnêtement, je pense que moi, personnellement, je ne regarderai pas les matchs.
Ah bon ?
Non, ça m'intéresse pas. Quelque part, ça m'intéresse pas. Dans ces conditions-là, je vois pas
l'intérêt. Donc, d'une certaine manière, vous boycottez.
Moi, personnellement, je boycotterai, oui, clairement.
Ray J.B.
Ça soupire. Je suis très dubitatif parce que j'ai envie de vous dire pourquoi je reprendrai ce que tu viens de dire. Pourquoi pleurer maintenant, en fait ?
Oui.
Le Qatar a eu la Coupe du Monde en 2010. Ça fait 12 ans qu'on sait qu'ils vont accueillir la Coupe du Monde. Personne ne s'est élevé contre ça il y a 12 ans. C'est que maintenant qu'on s'élève
contre ça. Et 12 ans que des ouvriers meurent sur les chantiers.
Ensuite, l'autre remarque, aucun des 32 pays qualifiés n'ont appelé au boycott. Ce qui semble un peu compliqué, parce que forcer des équipes à boycotter, c'est pas forcément simple, parce que la Coupe du Monde, c'est quand même, je veux dire, le Saint Graal des compétitions footballistiques, et puis beaucoup ça d'argent. Permet, et puis ça draine beaucoup d'argent, effectivement. Puis c'est l'occasion également pour les joueurs aussi de se valoriser, notamment. Dans cette Coupe du Monde, on attend des boycotts de la part de qui ? D'Mbappé, de Neymar, de Messi ? Dois-je rappeler qui sont les propriétaires du Paris Saint-Germain ?
Le Qatar.
Le Qatar. C'est eux qui vont appeler au boycott ? Non mais je pose la question sérieusement avec un peu
juste.
Avec ironie, mais qui va appeler au boycott ?
Juste.
Et pourquoi d'ailleurs, il y a 4 ans de ça, n'a-t-on pas appelé aussi au boycott de la Coupe du Monde en Russie ? Je pose des questions, puisqu'on pose la question, je pose aussi d'autres questions. Voilà, et puis peut-être qu'on arrive... Enfin, plus sérieusement... Je ne pense pas que ça avancera à quelque chose. De boycotter, ça va plus crisper qu'autre chose. En revanche, je dirais appeler ou en tout cas militer pour une meilleure, on va dire, un meilleur respect des droits humains dans ces pays-là et notamment au Qatar. Oui, effectivement, il faut continuer à le faire aux côtés. Il faut soutenir ces ONG qui le font. Mais bon, j'ai envie de dire, appeler au boycott, c'est
trop tard.
C'est beaucoup trop tard. Il fallait se réveiller avant et pas à pratiquement un mois et demi d'une compétition qui arrive et dont aucune équipe, je pense, ne se retirera de la compétition. C'est idéaliste, totalement idéaliste.
Donc finalement, effectivement.
Non, mais après, chacun sera libre d'utiliser la zapette ou pas, quoi. Je veux dire, c'est pas, moi, ça m'intéressera pas parce que,
mais voilà, par contre, c'est... ce qui serait effectivement, pardon de t'avoir coupé, ce qui serait effectivement, je dirais, quelque chose d'utile, c'est que les joueurs qui participent à cette Coupe du Monde puissent exprimer aussi leur attachement aux droits humains. Oui, ça, ce serait un signe fort. Voilà.
Tout à fait. Témoigner
de ce qui se passe.
Merci, messieurs. Merci d'être intervenu.
Merci, Adil.
Merci à Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de police, mais également aussi aujourd'hui auteur et comédien. Merci à Raed Chaibi, le président de l'association franco-tunisienne. Au plaisir, messieurs.
Au plaisir.
Merci à vous tous et toutes. Vous avez été très nombreux, évidemment, au 01 53 48 3000, comme chaque soir. Mais on remet ça dès demain, avec autant de plaisir, on ne lâche rien. 20-21, Bilal Nedman. 21-23, Vanessa. Et prenez soin de vous. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.